Si Dieu, cet après-midi, vous demandait quelque chose de difficile, vous ne seriez pas prêt à le faire? C'est vrai? Ça veut dire que si ce n'est pas difficile, c'est encore plus facile à faire. Si on est capable de faire quelque chose de difficile, c'est que ma foi, pour faire quelque chose de plus facile, ça devrait quand même être assez raisonnable, être assez réalisable. Certains pensent que la foi, c'est un concept bien difficile à cerner. La foi, c'est un peu abstrait, c'est pas très facile à comprendre. D'ailleurs, rien que le mot concept, plusieurs fois je l'ai entendu, certainement l'avez-vous entendu aussi, vous parlez de la foi, concept, pas facile, hein. C'est assez difficile à démêler tout cela. Un concept, c'est une idée. Un concept, c'est une pensée. Un concept, c'est une notion, la notion de quelque chose. C'est une abstraction, un contexte, un concept. Alors, je me dis que si vous pensez que la foi est un concept bien difficile à cerner, je me dis qu'il y a du vrai dans votre remarque. Il y a du vrai, parce que certainement que ce n'est pas dans le fait d'une difficulté, mais c'est plutôt dans celui d'une abstraction. La foi, c'est vraiment une abstraction. Parce que si on réfléchit un instant, pour croire, il faut sortir de ses raisonnements. Il faut arrêter de raisonner. Donc forcément, c'est abstrait. Forcément, vous sortez là du cercle de votre logique. Et il est évident que pour croire, il faut faire un effort. Alors, Dieu va vous demander quelque chose de difficile cet après-midi. Puisque vous êtes prêt à faire quelque chose de difficile, ça tombe bien. Dieu va vous demander quelque chose de difficile. Je pense que c'est quand même à votre portée. Je pense que si Johanna l'a attrapé, c'est que c'était à notre portée. Si je l'ai attrapé un jour, c'est que c'était à ma portée. Et je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas saisir ceci cet après-midi. La réalité, c'est qu'il ne faut pas vous appuyer sur vos acquis. Et on va le voir au travers de l'histoire de cet homme Naaman. Quelqu'un a dit un jour que l'erreur est humaine. Vous croyez à ça, vous? L'erreur est humaine? Bah oui, hein. On devrait même dire d'ailleurs les erreurs sont humaines, si on en faisait qu'une encore. L'erreur est humaine. Bah, on ne peut pas échapper à ça, ça c'est une vérité. Mais si l'erreur est humaine, donc elle est excusable. Parce qu'après tout, on n'est pas parfait. Donc il faut bien à un moment donné pouvoir être excusé de la faute que l'on aura commise certainement. Mais si l'erreur est humaine et quand même excusable, elle reste un problème, ne serait-ce qu'à cause des conséquences. Si vous faites mal, si vous faites quelque chose qui n'est pas bien, forcément il y a des conséquences. Ça, c'est un problème. Comment on gère les conséquences? Comment on affronte les conséquences? Comment on sort de ces conséquences quand elles nous ont enfermés dans quelque chose d'un peu pesant, pour pas dire pénible et douloureux? Mais je reste persuadé que l'erreur reste une opportunité, une chance que Dieu nous accorde cet après-midi, c'est celle de réparer. Et même si, en parlant de Naaman, sur son problème de santé, on va y venir, c'est pas une erreur, le pauvre il est malade. Mais dans sa démarche, il a commis pas mal d'erreurs. Néanmoins, toutes les erreurs sont excusables. Toutes les erreurs, finalement, peuvent être pardonnées quand c'est Dieu qui regarde la chose. Et puis, toutes ces erreurs ont été des opportunités pour réparer, pour refaire, et puis pour faire dans le bon sens et pour que ça fonctionne. Je crois que Naaman nous ressemble beaucoup. Alors, si vous ne savez pas qui était Naaman, je vais essayer en quelques mots de vous décrire un petit peu ce qu'a été sa vie, ou en tous les cas, ce que la Bible nous en donne à ce moment de l'histoire. Tout d'abord, Naaman, ça a été quelqu'un qui a été choisi. On entend encore aujourd'hui, malheureusement, des personnes vous dire « Moi, j'ai rien fait pour venir au monde. J'ai pas demandé à venir au monde. » Ça sous-entend que, bon, on subit la vie. Et certains se posent même la question, j'ai pas été aimé par mes parents, j'ai pas été désiré, j'ai pas été voulu, quelque part j'ai pas été choisi et je suis là, comment est-ce que je vais faire maintenant? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Naaman, c'est quelqu'un qui a été choisi, c'est quelqu'un qui a été choisi. Alors, il a tout d'abord été choisi par ses semblables. Le début de l'histoire, au début du chapitre 5, je lis pour vous, il est dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître, du roi, et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. C'est quelqu'un qui a été choisi par le roi parce que c'est quelqu'un de valeureux, c'est quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui, au fil du temps, a montré ses capacités militaires. Vous ne devenez pas général, normalement, du jour au lendemain, même si vous êtes le fils d'eux, il faudra au moins faire Saint-Cyr et après on verra. Il y aura peut-être quelques armes à faire ici et là, mais il est général. Il est tout en haut, finalement, il commande. Et c'est un homme qui a réussi dans la carrière, et ça ne s'est pas fait comme ça, j'insiste, de but en blanc. Mais on a observé, on a vu ses qualités, on a vu ses capacités, on a vu ses exploits, on a compris sa personnalité, parce que vous avez des personnes qui ne sont que des héros solitaires. Hein. Ils travaillent bien que seuls. Ils n'ont besoin de personne, ils n'ont pas envie de commander, ils n'ont pas cette aura capable d'entraîner des gens après eux. Donc Naaman a ces qualités-là, c'est quelqu'un qui peut commander et c'est quelqu'un qui a été choisi pour ça. Vous imaginez le roi de Syrie faire la revue des troupes, il cherche le plus tocard pour en faire un général, ça ne marche pas. Il ne va pas prendre celui qui arrivera pas, celui qui ne sait pas parler, celui qui se cache toujours dans un coin, celui qui a raté à chaque fois qu'il a mené une expédition, ça a été une catastrophe. Il ne va pas le choisir lui. On l'a choisi parce qu'on a vu ce qu'il était capable de faire. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi. En fait, on a cherché son utilité, on l'a trouvé, donc on l'a utilisé. J'aimerais vous dire que vous serez souvent choisi par ceux qui vous entourent pour l'utilité que vous leur apporterez, très souvent. C'est parce que vous leur apportez quelque chose, qu'ils vous aiment bien, qu'ils vous invitent, qu'ils aiment vous avoir avec eux, etc. Le jour où vous ne leur apporterez plus rien, ben peut-être qu'ils vous oublieront. Pourtant, vous direz, j'ai pas changé de téléphone, c'est bizarre, ils ne m'appellent plus. Vous serez un peu moins choisi, un peu moins désiré, parce que ben voilà, ça fonctionnera moins. Cet homme a été choisi parce qu'il était utile. Mais cet homme a été choisi par Dieu aussi. Et c'est là où, dans le fond, son histoire ressemble à la vôtre. Parce que si, malheureusement, vous n'êtes pas général et vous n'avez pas été choisi par tous ceux qui vous entourent et ils n'ont pas plébiscité tout ce que, voilà, votre présence en toutes circonstances, je puis vous garantir que cet après-midi, vous avez été choisi par Dieu. Et ça, ce n'est pas juste un scoop, c'est simplement une vérité. Vous avez été choisi par Dieu. Ça fait bien longtemps. Quel âge vous avez ? 20 ans ? 50 ans ? 85 ans ? Ça fait autant d'années que Dieu vous a choisi, plus 9 mois. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez été conçu, Dieu savait et Dieu vous a choisi à ce moment-là. J'aime beaucoup cette idée du choix de Dieu parce que ça nous rappelle que si Dieu nous choisit, ce n'est pas parce qu'on est capable puisqu'il nous choisit avant notre naissance. Qui pourra dire ce qu'on deviendra ? Lui le sait. Mais comme on est libre, on peut réussir ou on peut passer totalement à côté de ce que Dieu avait décidé. Mais Dieu nous choisit et Dieu vous choisit, Dieu t'a choisi cet après-midi, simplement, parce que précisément, tu auras besoin de lui. Tu as eu, tu as, tu auras besoin de lui. Naaman, tant que tout marchait bien pour lui, dans le fond, il n'avait pas besoin forcément de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, il s'est retrouvé malade. Ça peut vous arriver de tomber subitement malade. Ça peut même vous arriver de tomber à ce point malade que vous êtes un petit peu perplexe, troublé, parce que c'est pas anodin, c'est pas une grippe, c'est pas une petite maladie, mais on vous annonce quelque chose de durable, qui va rester longtemps, quelque chose qui peut littéralement changer votre vie, votre avenir. Et ça peut être pesant quand même. Naaman va apprendre un jour qu'il est atteint de la lèpre. La lèpre, aujourd'hui encore, fait des ravages. Mais aujourd'hui, est peut-être prise à temps, peut-être soignée. Et si vous êtes soigné, si on vous donne le bon traitement, ça ira. Par contre, si vous n'avez pas de traitement, ça va être une calamité. Ça va être une calamité. Vous allez souffrir, vous allez vous voir mourir, éteindre à petit feu, et ça va être quelque chose d'épouvantable. Naaman est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'il est malade et il n'y a pas de guérison possible. Il n'y a pas d'autre alternative que d'attendre tristement que le temps fasse son œuvre et que votre corps soit ravagé de crevasses, de plaies, de marques indélébiles, et un jour ou l'autre, vous mourrez exclu de la société. C'est ce qui attend Naaman. La maladie qui risquait d'être contagieuse, qui pouvait être très mal perçue par l'entourage, le jour où ça se saurait, le jour où la foule saura que Naaman est lépreux, c'est fini, il est exclu de la société, il va être mis au banc, il va être chassé, c'est comme ça. Mais Naaman a été choisi par Dieu. Et il a été choisi par Dieu précisément parce qu'il est lépreux, précisément parce qu'il est perdu, précisément parce qu'il est malade, précisément parce que, avec cette maladie, il n'a plus d'avenir. C'est pour ça que Dieu l'a choisi. La première bonne nouvelle que je voudrais vous raconter, vous dire cet après-midi, c'est que Dieu vous cherche, cherche un cœur cet après-midi pour le bénir. Dieu vous a choisi. Est-ce que vous allez le choisir? C'est la réponse que vous donnerez tout à l'heure qui déterminera cela. Mais en tous les cas, sachez que on peut être aimé de ses semblables, on peut se dire « j'ai pas besoin de Dieu, je suis bien entouré, j'ai tout ce qu'il me faut ». Dites-vous bien qu'à un moment donné, vous aurez besoin de Dieu. C'est sûr, vous en aurez besoin. Plaise à Dieu que vous puissiez anticiper ce besoin-là et dès cet après-midi, mettre votre vie entre les mains de Dieu. C'est une sécurité que de faire cela. C'est un avantage que de faire cela. Naaman est comme vous. Nous sommes comme Naaman. Il a été malade, il a été frappé par la maladie. Tôt ou tard, la difficulté viendra frapper à votre porte, si ce n'est pas déjà fait. Faites confiance à ce Dieu qui bénit, à ce Dieu qui sauve. Et puis, Naaman, c'est un homme comme les autres parce que, quelque part, la lèpre l'a rendu humain. Vous avez des personnes comme ça, vous avez l'impression que tout leur réussit, qu'ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont riches. Et il y en a d'autres, ils sont bêtes, ils sont moches, ils sont pauvres. Alors certains diront, mais tout leur réussit à eux, regardez, c'est formidable. Mais Naaman est comme nous. Hein. Naaman est un homme comme les autres. S'il n'avait pas été malade, certains douteraient en disant, ben, c'est normal qu'il réussisse, regardez ses capacités. Regardez cette aisance, cette facilité et tous les avantages qu'il a eus. Lui, il est né sous une bonne étoile. Moi, ça n'a pas été mon cas. Non, non, Naaman est comme vous. C'est un homme comme les autres. La maladie le rend humain. C'est ce qui restera certainement d'ailleurs de lui, parce qu'il faut vous dire que ce qui restera de vous, de moi, ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous aurez été. C'est ça qui restera. Ce n'est pas ce que vous avez fait, c'est ce que vous êtes. Ça, on s'en souviendra. Tout ce que vous avez fait, déjà même vous, vous ne vous souvenez pas de tout ce que vous avez fait. Pensez que les autres vont s'en souvenir? Ils en ont peut-être déjà oublié la moitié, peut-être même les trois quarts. Non, non, ce qui restera, c'est qui vous êtes. On se souviendra de vous. Ah, il était gentil, il était serviable, elle était douce, elle était agréable, elle avait toujours une parole encourageante, ou alors il était toujours en colère, il était toujours disgracieux, il n'était pas agréable, il ne rendait jamais service. On se souviendra de ça, hein ? On se souviendra pas de ce que vous avez fait. Naaman, on ne se souviendra pas de tes exploits, mais on s'est souvenu que tu étais lépreux quand même. On se souviendra que tu étais lépreux. Et je pense qu'on se souviendra de lui quand Dieu le guérira. Eh, vous vous souvenez, Naaman, c'était le lépreux qui a été guéri. D'ailleurs, pour vous dire que cette histoire est arrivée quelques centaines d'années, avant que Jésus ne vienne, et Jésus en parlera. Des centaines d'années plus tard, Jésus en parle encore. Alors qu'il est dans la synagogue de Nazareth, il est en train de commenter un texte de l'Écriture, ce qui étonne bien des personnes qui sont là. Et Jésus va répondre à ces personnes qui s'en étonnent. Et il va leur dire, « Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » On ne s'est pas souvenu des exploits de Naaman, mais on s'est souvenu qu'il était lépreux. On s'est souvenu de ce qu'il était. J'aimerais vous dire que l'idée de l'homme indestructible, ça n'existe que chez Walt Disney, l'homme indestructible. Et on l'allonge, c'est un élastique, il est tout en pierre, il est indestructible. Non, non, ça n'existe pas. La vérité, c'est qu'on est soumis à la faiblesse, vous l'êtes, vous aussi, et les années font son œuvre, et puis c'est comme ça, on subit. Tout à l'heure, je sortais de la voiture, au moment où je suis sorti de la voiture, j'ai eu une de ces douleurs dans la cheville, j'arrivais plus à marcher. Et je me dis, ça doit être un rhumatisme. C'est terrible quand même. À mon âge, un rhumatisme, mais où on va? On se dira toujours ça un jour ou l'autre. Le corps vieillit, le corps s'use, on dit c'est pas possible. Et qu'est-ce que tu croyais, que tu allais échapper à ça? Maintenant ça va, je peux te taper dessus, c'est bon, il est parti. Il reviendra, mais le plus tard possible. Et qu'est-ce que vous croyez? Quand on voit ce que la Bible annonce sur le parcours de l'être humain, de l'homme, il ne faut pas se faire trop d'illusions quand même. Dans un psaume, c'est le 90, écoutez ceci. Cet homme, c'est Moïse, pas bête, dira ceci. « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. » Un autre texte un petit peu parallèle dit « Nu tu es sorti de la terre, nu tu en retourneras, tu y retourneras, et vous êtes poussière, et vous retournerez à la poussière. » Tu dis, fils de l'homme, retournez à la poussière, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Ésaïe a dit un petit peu la même chose, ce sera repris dans le Nouveau Testament par également un apôtre. Il est dit ceci dans Ésaïe 40, vous connaissez certainement ce verset pour vous amateurs de la Bible. Une voix dit « crie » et il répond « mais que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe. » Et tout son éclat, comme la fleur des champs, l'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Le temps passe vite, mes amis, le temps passe vite. Je ne suis pas du tout nostalgique, mais le temps passe vite. Et finalement, la belle fleur que vous avez été, elle a perdu quelques pétales. Mais elle n'est pas sèche, ça c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir encore. Mais le jour où vous serez mort, l'herbe aura séché, c'est fini. Hein. Devant Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour, le temps passe. Vous savez que Dieu n'est pas soumis au temps. Hein. Nous le sommes. Hein. On voudrait arrêter le temps, ça ne marche pas. Dieu n'est pas soumis au temps. Les générations passent, les siècles se succèdent, les uns après les autres. Et vous, vous n'êtes que... Mais vous êtes quand même quelqu'un, un nom... Une personne qui passe dans un siècle. Au mieux, vous arriverez à joindre 2 siècles. Au mieux, vous allez vivre 101 ans, 102 ans, 105 ans. Mais c'est tout par rapport à l'immensité de l'éternité. Comme le disait tout à l'heure Johanna, l'immensité de l'éternité, qu'est-ce que ça représente? Se confier en ses propres capacités ou se confier en Dieu, il me semble que c'est une question de perspective. Je ne sais pas si vous êtes doué pour les perspectives. À l'école, on apprend les perspectives. On vous apprend ça, on vous apprend à dessiner. Donc vous dessinez le rectangle et après il faut dessiner le cube. Il y a la perspective. Bon, je ne sais pas si vous êtes très doué en perspective, mais bon, certains ont la 3D dans la tête. Ben, d'autres, ils ne l'auront jamais. Hein. C'est pas évident, quoi. Vous dessinez la perspective, vous ne savez pas si c'est quoi, c'est un chat ou c'est un lion. Perspective, on a du mal à voir les proportions, c'est un peu bizarre. La réalité que si vous ne vous confiez qu'en vous-même... C'est-à-dire que votre vue s'arrêtera à votre mort. La perspective, elle est devant vous à quelques dizaines d'années, tout au plus. Tandis que si vous vous confiez en Dieu, la perspective vous emmène jusque vers l'éternité. C'est-à-dire que vous vous projetez beaucoup plus loin. Et j'aimerais tellement vous encourager à vous projeter beaucoup plus loin. À un moment donné, Naaman s'est trouvé coincé devant une réalité. Dans quelques années, je serai mort. Ma maladie m'emportera. Ou alors mort au combat, mais en tous les cas, c'est une perspective. Est-ce qu'il fallait regarder plus loin? Soit vous ciblez la terre, soit vous ciblez le ciel. Je vous encouragerai cet après-midi à lever vos regards et à cibler plutôt un peu le ciel plutôt que la terre. Naaman, c'est un homme qui a été choisi, c'est un homme qui est comme les autres, tout à fait normal, mais c'est quand même un homme qui a été gâté, tout comme vous d'ailleurs, qui a été particulièrement gâté. Parce qu'on s'aperçoit qu'il a tout près de lui, des personnes aimantes, des personnes attentionnées, des personnes très inspirées et des personnes courageuses quand même. Quelle a été toute son histoire, vous pourrez le lire. Mais vous avez tout d'abord une servante qui vit dans sa maison. C'est une petite esclave qui a été emmenée captive de son pays. Aujourd'hui, on crie au scandale, et c'est normal. Après ce qu'on entend en Afrique et ailleurs, Boko Haram, l'État islamique qui kidnappe des gens et ils les vendent sur des marchés d'esclaves. C'est exactement le sort qui est arrivé à cette petite fille. Il y a eu une razzia, on a pillé, et puis on a emmené des jeunes gens captifs et on les a vendus comme esclaves. Et cette jeune enfant s'est retrouvée esclave. Elle s'est retrouvée esclave. Et puis dans cette maison, elle sert comme une esclave, comme une servante. Et puis, de façon très surprenante, elle est touchée par la maladie du général. Elle aurait pu s'en moquer en disant « Je te pardonnerai jamais. Je vis même plus dans mon pays, je suis loin de ma nation, mes parents, je ne sais même plus où ils sont, tu les as peut-être fait tuer, etc. Que tu meurs un jour, ça me débarrassera. Non, non, ton problème, c'est pas le mien. » Non, non, c'est une jeune fille étonnamment attentionnée, très attentionnée. Et elle va s'adresser à l'épouse de cet homme et elle va dire une parole incroyable. Elle va lui dire « Si mon maître était en Israël dans mon pays, je connais quelqu'un là-bas qui a la puissance de Dieu et qui est capable de le guérir de sa maladie. » Vous vous rendez compte? Quand l'épouse entend ça, elle va rapporter l'histoire à son mari, qui va rapporter l'histoire au roi. Et il lui dit, écoute, il y a peut-être une solution, il y a peut-être une perspective. On m'a dit qu'en Israël, il y a un homme qui guérit, un guérisseur. L'a-t-il vu comme cela? Eh bien, le roi, il aime bien Naaman quand même. Il lui donne de l'argent, il lui donne des lettres, des sauf-conduits, et il lui donne une lettre de recommandation, il lui dit « Va vite trouver le roi d'Israël et reviens-nous guéri !» C'est un privilège quand même. Hein. Après tout, le patron aurait pu lui dire « Non, non, t'as pas de jour de congé, tu restes là. Hein. Non, 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 tes RTT, tu les as pris, tu travailles. Hein. Hors de question, oui, mais je vais mourir. Eh ben tant pis, j'en prendrai un autre. » Il est sympa, je trouve, le roi, non? Non, il n'y a que moi qui le trouve sympa. Moi, je le trouve sympa, quand même, assez favorable, assez gentil tout de même. Et on lui donne tout ce qu'il faut, l'aide de recommandation, même une escorte pour pas qu'il lui arrive quelque chose en route. Et il s'en va. Quand il arrive en Israël, il va être dirigé vers le prophète Élisée. Prophète Élisée. Et le prophète Élisée va pas se déplacer, mais va dire tout simplement, « Écoute, va te laver 7 fois dans le fleuve du Jourdain et tu seras guéri. » Ce qui va pas du tout plaire à monsieur Naaman. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il va se mettre en colère. Il va se mettre en colère contre le prophète. On y viendra dans un moment. Et quelque temps plus tard, il se soumettra tout de même à la demande du prophète. Et effectivement, après s'être plongé 7 fois dans le Jourdain, la 7e fois, il en ressort. Miraculeusement, la lèpre a disparu. C'est un miracle incroyable. Plus une seule marque, plus une seule cicatrice, plus une seule blessure, rien, plus une seule affection, totalement guéri, totalement guéri. Il retourne vers le prophète, et c'est là où je voulais en venir. Il va quand même croiser sur sa route un prophète qui est quand même pas rancunier. Hein. Parce que je ne vous dis pas tout ce qu'il a pensé du prophète, quand le prophète ne s'est même pas déplacé en personne pour le trouver, et quand il n'a même pas guéri le lépreux sur la place avec quelques incantations, quand il l'a en quelque sorte totalement ignoré, mais ce Naaman était fou furieux, fou de colère contre cet homme qu'il avait méprisé, et c'est bien remonté aux oreilles d'Élisée. Hein. Et quand quelque temps plus tard, Penaud, l'homme guéri, revient vers Élisée, Élisée aurait pu lui dire « Tu me dois des excuses, hein. Tu as vu tout ce que tu as dit sur moi, tu as vu de quelle manière tu m'as traité ? » Rien. Absolument rien, il l'accepte encore. Voyez comme l'environnement a été favorable pour cet homme. Je voudrais vous dire que Dieu dispose pour vous d'un environnement favorable. Vous me direz, c'est vous qui le dites, quand je vois ma vie, elle est bien triste, elle est bien secouée, il y a des avis de tempête tous les jours, vous me dites que c'est favorable, je vois pas trop où est la faveur. Mais vous êtes vivant, c'est une faveur. Vous êtes là à m'entendre, à m'écouter, enfin j'espère. C'est une faveur, ça aussi. C'est une faveur. Vous êtes là, vous entendez un message qui vous parle de guérison, qui vous parle de délivrance, qui vous parle d'espoir. Mais c'est une faveur, ça. C'est une faveur que Dieu vous fait cet après-midi. Qu'allez-vous en faire? Et puis enfin, si Naaman a accepté de plonger dans les eaux de ce Jourdain, c'est parce qu'il avait des serviteurs très courageux qui, le voyant repartir avec sa lèpre, ajoutée à la colère qui l'habitait, l'ont essayé de l'arrêter et lui ont posé la fameuse question qu'on a lue en introduction de ce moment. Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. Ils ont été drôlement courageux, ces serviteurs. Parce que c'est la remarque de ces hommes-là qui a arrêté cet homme dans sa course pour rentrer malade à la maison et qui l'a conduit vers la guérison. Il a eu finalement des serviteurs bien inspirés autour de lui. Il a eu des gens très courageux. Il a eu un roi prêt à pas mal de concessions quand même. Puis il a surtout eu une servante, une petite fille qui croyait au miracle. Cet après-midi, nous croyons au miracle. Et nous croyons que Dieu peut faire un miracle dans votre vie. Croyons qu'il est capable de vous guérir, de vous soulager, de vous délivrer et de vous donner un avenir. Alors je vais terminer sur le fait que c'était un homme gâté. C'était un homme choisi, comme vous. C'est un humain comme vous, un simple homme, avec ses défauts, ses faiblesses, ses fragilités. Mais quand même, c'était quelqu'un de tellement perdu, tellement paumé, tellement perdu, comme vous, tellement égaré, voyant pas bien clair. Quand on voit la démarche de cet homme, on est surpris. Quand il demande au roi de Syrie la possibilité de s'absenter pour aller en Israël, le roi lui donne une lettre de recommandation et on l'envoie vers le roi d'Israël, de roi à roi, si vous voulez. On l'envoie vers son homologue. Et quand le roi d'Israël reçoit l'ambassade et tous les Syriens qui arrivent, il dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi ? Moi, je peux rien faire. Moi, je peux pas guérir quelqu'un. C'est totalement impossible. » Et même le roi d'Israël a imaginé que c'était un piège pour... Entrer en guerre. C'est là qu'Élisée, apprenant la nouvelle, va dire « Emmène-le chez moi, et amène-le jusqu'à la maison. » En fait, il a été dans la bonne direction, mais il ne s'est pas adressé à la bonne personne. Ça vous est peut-être arrivé, ça aussi. Vous voulez bien croire en Dieu, vous allez dans la bonne direction. Mais si vous ne vous adressez pas à Dieu en passant par le seul, l'unique moyen, c'est-à-dire Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie, en fait, vous risquez de ne pas vous adresser à la bonne personne. Aujourd'hui, regardez sur la terre la quantité incroyable de lieux de pèlerinage. On va bien ici ou là, parce qu'il y a eu une apparition, parce qu'il y a eu un saint dévoué quelque part, et puis on va aller vers un morceau de pierre, vers du marbre sculpté, on va aller vers un tableau, on va aller vers des idoles dans le fond. On se trompe de personne. Et on repart malade, on repart avec ses souffrances. Comme disait quelqu'un, j'ai fait un pèlerinage, et alors ? Eh bien, lourde dépense. Ça lui a coûté cher, c'est tout ce que ça lui a rapporté. Lourde dépense. Pèlerinage, ça ne sert à rien. Que vous alliez dans les Pyrénées ou pas loin d'ici, pourquoi pas à Notre-Dame-du-Lot, ça ne changera rien. C'est pas eux qui peuvent vous guérir, c'est Jésus qui guérit. C'est lui qui guérit. C'est trompé. Il n'a pas été vers la bonne personne. Et puis quand le prophète lui a dit « Va te laver cette fois dans le Jourdain », il n'est pas content parce qu'il dit « Mais quand même, il aurait pu se déplacer, il aurait pu venir vers moi, mais je m'attendais à autre chose. » Il dira ceci, « Je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. » Et c'est de là qu'il dira « Les fleuves de Damas, l'Abana, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que ces eaux d'Israël ?» Et il s'en retournait avec fureur, mais malade. En somme, il s'est trompé de personne, il n'a pas été vers les bonnes personnes, et puis il croit qu'il mérite quelque chose. Il aurait dû sortir lui-même. Moi, j'aurais bien aimé qu'il convoque le peuple. Moi, le lépreux, on me met sur l'estrade. Et puis, abracadabra, je suis guéri. Et on dit, hurra Naaman, tu as été le héros de l'histoire. Grosso modo, c'est ça. Mais ce n'est pas ça, la vérité. La vérité, c'est que Naaman, c'est un pauvre homme qui va mourir. Il est perdu. Et il croit qu'il mérite quelque chose. En fait, il méritait juste une chose, l'enfer. Et vous savez que je méritais l'enfer et que vous méritez l'enfer ou que vous méritiez l'enfer jusqu'au jour où vous avez rencontré Jésus. Pourquoi croyez-vous que Jésus a dû mourir sur une croix ? Pourquoi pensez-vous qu'il a dû être supplicié de la sorte ? Pourquoi pensez-vous qu'il a accepté d'aller jusque-là ? Il faut que le Fils de l'homme livre sa vie. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela ? Il n'y avait pas moyen de sauver le monde autrement ? Eh bien non, parce que nous sommes condamnés, parce que condamnables. Parce que nous, si nous ne faisons pas la paix avec Dieu, il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. Il faut accepter Jésus comme sauveur. Il est votre avocat, comme seul médiateur, l'agneau de Dieu parfait qui ôte les péchés du monde. C'est lui, c'est personne d'autre. Et Naaman s'est trompé. Il a pensé qu'il méritait quelque chose, mais il ne méritait rien. Il aurait voulu être au centre du jeu, mais là on ne joue pas, on ne joue plus. Là, il est question de l'éternité, il est question de la mort, il est question de la paix avec Dieu. Et puis, dans le fond, c'est quelqu'un qui est terriblement orgueilleux. Et là, je vous dis, mais dites-moi orgueilleux, qui ne l'est pas? Vous en connaissez des gens pas orgueilleux, vous? Vous en connaissez? Moi, j'en connais pas. À part moi, j'en connais pas. Eh oui, on l'est tous. On l'est tous. Qui va dire, non, non, moi je suis... L'orgueil, ça ne m'atteint pas, non, c'est pas vrai. D'ailleurs, quelqu'un disait très justement, le jour où on pense ne plus être orgueilleux, c'est là qu'on le devient encore plus. Eh oui, c'est sûr, on l'est orgueilleux, c'est une évidence. Pauvre Naaman, tu n'es pas sorti de l'affaire. Hein. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Dans le livre des Proverbes, Dieu dira ceci, l'arrogance et l'orgueil sont... la voie, le chemin du mal, l'arrogance et l'orgueil. Alors, ça se termine bien quand même, parce que ce qui était difficile, ce n'est pas ce qu'on lui a demandé de faire. Dans le fond, ce qui était difficile, c'est qu'est-ce que toi, Naaman, tu vas accepter de faire. C'était ça le plus difficile. Ce n'était pas ce qu'on lui a demandé, c'est ce qu'il était prêt à engager, c'est ce qu'il était prêt à faire. Si cet après-midi, vous pensez que vous repentir devant Dieu, c'est trop difficile, évidemment, là, vous me direz, la foi, c'est un concept très abstrait. C'est un concept difficile à cerner tout de même. Ce n'est pas ce que Dieu vous demande qui est difficile. C'est jusqu'où vous êtes prêt à aller. Si vous êtes prêt à vous repentir cet après-midi, si vous êtes prêt à demander pardon à Dieu, si vous êtes prêt à demander à Dieu de l'aide, si vous êtes prêt à reconnaître que vous êtes fragile, parce qu'on l'est tous, que vous êtes limité dans vos capacités. Si vous êtes prêt cet après-midi à vous mettre à genoux pour dire « Seigneur, aie pitié de moi, change ma vie, délivre-moi, pardonne-moi, je veux aller au ciel, je veux être sauvé, je ne veux pas être perdu, mais s'il te plaît, change ma vie. » Si vous êtes prêt à aller jusque-là, vous verrez que la foi, c'est pas un concept difficile. C'est très facile à saisir. Jésus dira « Demandez, vous recevrez. » Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ça paraît pas compliqué. Naaman a été béni. Et Naaman a tellement été béni que quand il est retourné voir le prophète, il a non seulement été guéri, mais vous comprenez, il a été sauvé aussi dans sa tête. Parce qu'il va demander au prophète juste une faveur. Maintenant, je reconnais qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé l'univers entier, les Juifs et les Syriens, tout le monde. Un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là que je servirai. Et puis, se tournant vers le prophète, il lui dira, j'ai quand même un petit souci, quand le roi de Syrie va dans la maison de son dieu, de son idole, de Rimmon, il se met à genoux et je suis obligé de m'agenouiller à côté de lui. Que Dieu me pardonne. Comme quoi Dieu n'est pas injuste. Et Élisée lui a dit, allez, va en paix. Le salut était entré dans son cœur. Certains vous diront, mais la foi, comment ça se pratique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mon ami, aime Dieu cet après-midi. Dieu se chargera du reste. Aime-le. Donne-lui ton cœur. Donne-lui ta vie. Il se chargera de tout le reste. Il t'expliquera comment il faut vivre. Il te dira ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Le Saint-Esprit t'inspirera. Mais aime Dieu cet après-midi. Et donne-lui toute ta vie. Et tu verras que c'est comme Naaman. On peut passer par un temps de lèpre, par un temps de difficulté, mais Dieu nous relève toujours. Amen. On va prier pendant quelques instants ensemble. Je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi et ensemble, nous allons dans la prière nous approcher de Dieu et lui demander son aide et lui demander sa grâce. Alléluia. Nous venons devant toi, Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta bénédiction, parce qu'à quel autre irions-nous sinon qu'à toi? Nous réalisons que sans toi, nous sommes rien, nous sommes perdus, nous manquons de réalité, nous manquons de recul pour affronter les difficultés de la vie. Et quelquefois, Seigneur, nous sommes comme Naaman, totalement perdus. Tu vois les difficultés de Naaman, combien de fois a-t-il pu gémir sur sa situation et combien de fois quelqu'un cet après-midi aura pleuré sur sa situation, sur ses malheurs, sur sa souffrance. Je te demande d'étendre ta main maintenant et de te révéler. Tu vois le besoin, tu vois la difficulté, tu vois le cœur troublé, tu vois le cœur angoissé, tu vois le cœur malheureux. Je te supplie d'agir au nom de Jésus. Je supplie de te glorifier au nom de Jésus. Je supplie de manifester ta grâce au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Il te plaira de relever ceux qui ne te connaissent pas. Il te plaira de sauver. Je crois que tu es là pour sauver quelqu'un, l'arracher à l'enfer et à la mort éternelle. Tu es mort, mais tu es ressuscité d'entre les morts, ce qui rend notre foi vivante. C'est quand nous regardons au ciel, tu es là dans le ciel et tu es là comme notre avocat et tu intercèdes pour nous. La seule chose que tu as emmené avec toi dans l'éternité, c'est la marque des clous dans tes mains, dans tes pieds. Et merci pour ce sacrifice parfait. Je prie que quelqu'un te trouve cet après-midi, qu'il ne dise pas que la foi demeure un concept difficile, mais qu'il réalise que, assurément, il faut arrêter de raisonner. Il faut simplement croire que quelqu'un te trouve et que quelqu'un soit béni cet après-midi. Amen.